Radio Classique. Et votre journée devient plus belle.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio Classique. Nous sommes le vendredi 20 novembre, il est pile 8h.
8h, 9h, la matinale de Radio Classique. Avec Bernard Poirette.
Et avec Lucille Bréau pour ce journal de 8 heures. Voici les titres. Les EHPAD sous surveillance. Un EHPAD sur cinq est frappé par le Covid. Le gouvernement renforce donc le dépistage. Pour le personnel, bien sûr, et aussi pour les visiteurs. Amazon reporte son Black Friday d'une semaine. Son directeur général France le confirme ce matin sur cette antenne. Les commerces, eux, veulent rouvrir dans une semaine. Réunion cruciale cet après-midi à Bercy. Et puis, le Covid qui prive d'école des milliers d'enfants dans le monde, c'est une génération sacrifiée selon l'UNICEF. L'UNICEF qui tire la sonnette d'alarme.
Radio Classique.
À la une de ce journal, donc, Lucille, plus de tests, toujours plus, pour les EHPAD.
1 sur 5, 1600 établissements comptent désormais au moins un cas de Covid en France, principalement en Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans les Hauts-de-France et en Occitanie. Pour limiter les contaminations des résidents, le gouvernement recommande désormais de tester chaque semaine le personnel, Sophie Paolini.
Dès la semaine prochaine, 1 600 000 tests antigéniques seront distribués dans les EHPAD. Une campagne de dépistage pour les personnels et non pour les résidents des établissements. C'est vital, selon les mots de la ministre de l'Autonomie, Brigitte Bourguignon, pour repérer d'éventuels clusters. Des renforts humains auraient été préférables, rétorque-t-on du côté des personnels des EHPAD. Autre annonce, cette fois à destination des visiteurs, ils devront remplir un auto-questionnaire sans valeur contraignante. Un test PCR est par ailleurs recommandé ou à défaut, un test antigénique réalisé le jour même de la visite. Enfin, test négatif ou pas, il faut avant tout respecter les mesures barrières, lavage des mains, distanciation physique obligatoire. Nous savons que l'isolement est le deuxième risque majeur, souligne Brigitte Bourguignon, et de rappeler que s'il est dur d'avoir 20 ans en 2020, comme l'avait dit Emmanuel Macron, il est aussi très difficile d'avoir 4 fois 20 ans en 2020.
Autrement dit, 80 ans à l'hôpital, la pression reste très forte. Déconfiner le pays n'est pas d'actualité, a prévenu aussi hier le ministre de la Santé, Olivier Véran. Plus de 2000 personnes ont encore été admises à l'hôpital hier, dont plus de 300 en réanimation.
Et je vous rappelle qu'à 8h15, la psychologue Marie de Henzel, grande spécialiste des problématiques de fin de vie, sera avec nous pour parler justement de la problématique confinement et personnes âgées. En attendant un vaccin, le dépistage et l'isolement des malades restent absolument capitaux.
Le fameux triptyque tester, tracer, isoler, l'isolement des personnes contaminées, justement, qui ne fonctionne pas bien chez nous aujourd'hui. Rien n'oblige un malade à rester chez lui. Les médecins demandent au gouvernement de durcir le ton, Rémi Pfister.
Tester et tracer, cela ne sert à rien si on laisse dans la nature les cas contacts et les personnes contaminées. L'isolement était beaucoup trop laxiste en France, selon le professeur Gilbert Deray de la Pitié-Salpêtrière.
Il y a d'autres pays, qu'on va citer l'Australie par exemple, où on surveille que vous soyez isolé avec des amendes extrêmement sévères si vous ne le faites pas. L'isolement de la première période a été un échec. Pour ne pas renouveler cet échec, il va falloir qu'on prenne des décisions pour savoir si oui ou non on surveille les personnes qui doivent être isolées ou si on fait simplement dans la demande pour ces personnes.
La réquisition d'hôtels pour permettre à chacun de s'isoler a pourtant été un temps évoqué durant la première vague, mais le dispositif a été très vite abandonné. Pour le professeur de santé publique Philippe Amouyal, ce sera pourtant la clé de la réussite de ce nouveau déconfinement.
Quand vous êtes étudiant en colocation avec 4 colocataires et que vous êtes dans 60 mètres carrés, l'isolement n'est pas possible. Mais on ne vous propose rien, dans l'état actuel des choses, pour vous permettre de vous isoler correctement.
Et il faudra isoler vite et bien lorsque le seuil de 5000 cas de contamination par jour aura été atteint. Car cet objectif gouvernemental n'est pas très ambitieux selon les scientifiques. Au moment du premier déconfinement, les contaminations n'étaient qu'à 300 personnes positives par jour.
Rien qu'hier, plus de 21 000 nouveaux cas ont encore été identifiés, 43 000 la veille. Emmanuel Macron, lui, s'exprimera la semaine prochaine pour présenter un allègement du confinement par palier. En amont, Jean Castex s'entretient, lui, à 17h cet après-midi avec les chefs des partis politiques par visioconférence.
Et voilà une décision qui apparemment semble convenir à tout le monde. Le gouvernement vient d'arracher le report d'une semaine du Black Friday.
Amazon, le géant de la vente en ligne, accepte finalement de le décaler de quelques jours au 4 décembre. Son directeur général France, Frédéric Duval, était l'invité de Radio Classique il y a quelques minutes.
Je pense qu'on a très envie de faire en sorte que le Black Friday soit une vraie fête. Et donc, avec d'autres distributeurs et en écoutant les recommandations du ministre, on s'est dit, allez, reportons le Black Friday, qui, si ça permet à tous les commerces de détail et physique de réouvrir avant le 1er décembre.
Frédéric Duval, le directeur général France d'Amazon, l'invité Dimitri Pavlenko il y a quelques minutes. Les commerces, eux, qui espèrent toujours pouvoir ouvrir le 27 novembre dans une semaine. Une nouvelle réunion est prévue cet après-midi à Bercy avec tous les grands acteurs du secteur pour en parler.
Question, Lucille, est-ce que les dindes de Thanksgiving auront un répit d'une semaine?
Bonne question.
Je ne sais pas.
Bernard,
nous allons
on
enquêter.
Sait pas.
Nous allons enquêter.
Nous enquêterons.
Le Covid, vous le savez, c'est absolument dramatique. On ne vous fait pas un dessin, notamment parce qu'il prive d'éducation des millions d'enfants à travers le monde.
572 millions d'élèves sont censés suivre aujourd'hui des cours à distance, parfois sans ordinateur et sans Internet. Une génération entière complètement sacrifiée pour l'UNICEF qui a publié hier un rapport alarmant. Ce sont les enfants des pays les plus pauvres qui souffrent le plus. Un constat que partage Philippe Lévesque, le directeur de l'ONG Care France. Il l'a dit à Laura Taouchanoff.
Dans de nombreuses familles, il n'y a déjà pas d'électricité. Quand il y a électricité, il y a un seul téléphone, et c'est un téléphone classique. C'est impossible pour tous les enfants de suivre de l'enseignement à distance. Et là, on aura un gros impact, essentiellement dans le primaire.
Si la pandémie est contrôlée relativement rapidement, alors on arrivera à rattraper le retard. En revanche, si le vaccin n'est pas accessible, avec des médicaments beaucoup trop chers, auxquels les pays les plus pauvres n'ont pas accès, alors là, oui, les conséquences dans le long terme seront terribles.
Alarmant aussi les chiffres de la pandémie dans le monde. 9 millions de cas recensés désormais en Inde, plus de 200 000 cas et 2 000 morts de plus en 24 heures aux États-Unis. Les Américains qui ont pour consigne désormais de ne pas voyager pour Thanksgiving la semaine prochaine. Les États-Unis où Joe Biden conforte sa victoire à la présidentielle après un recomptage des bulletins dans l'état clé de Géorgie. Donald Trump, lui, ne reconnaît toujours pas sa défaite. C'est irresponsable pour Joe Biden, il l'a dit cette nuit.
Je crois que les Américains sont témoins d'une incroyable irresponsabilité. C'est un message désastreux envoyé au monde sur la manière dont fonctionne la démocratie. Je ne sais pas pourquoi il fait ça, mais je pense que c'est totalement irresponsable.
À noter que Donald Trump a encore le droit de demander un troisième comptage des voix, car l'écart s'est encore resserré. Biden est devant, mais avec seulement 12 284 voix en Géorgie. Donc.
Et dans le reste de l'actualité, en France, il y a les plaidoiries très attendues aujourd'hui au procès d'Aval.
Juste après un ultime interrogatoire de l'accusé, hier, Jonathan Daval a reconnu pour la première fois avoir voulu tuer sa femme. Le verdict, lui, est repoussé à demain. La grippe aviaire et après la Corse, un deuxième foyer vient d'être identifié dans une animalerie des Yvelines. Les oiseaux concernés ont été euthanasiés préventivement. Et puis le Vendée Globe pour terminer, Alex Thompson fait toujours la course en tête, talonné par Thomas Ruyant. 12 skippers sont désormais dans l'hémisphère sud. Bernard, ils sont 6 de plus. Normalement, demain, ils vont vite, très vite, ces skippers.
Et le CAM, il est largué?
Non, il n'est pas largué, Jean-Le CAM.
4e, 5e? Bon. On dira à 9h.
On vous dira à 9h. Voilà.
Merci beaucoup, Lucille Bréau. Elle revient donc pour le flash de 9h. C'était le journal de 8h. Il est 8h08 exactement. Guillaume Tabar, dans un instant, pour son édito politique. Pour ne pas écorner le droit à l'information, le gouvernement a choisi d'amender son projet sécurité globale.